aujourd'hui les secrets même de la bombe atomique française.
Ici la Défense nationale, voici en toute première mondiale, puisque c'est le document original que nous vous faisons entendre, le bruit de l'explosion de la première bombe atomique française.
Ans d'histoire. Le samedi 13 février 1960, tous les avions survolant l'Afrique recevaient l'ordre de s'écarter d'une zone située au-dessus du désert du Tanezrouft, quelque part en plein cœur du Sahara. Au même moment, près de l'oasis de Reggan, quelques journalistes triés sur le volet s'apprêtaient à découvrir un des secrets les mieux gardés de France. Puis le compte à rebours commença, tandis qu'il prenait connaissance des dernières consignes. Se tenir assis au sol, le dos tourné au point zéro, et mettre un bras devant ses yeux pour ne pas être aveuglé par l'explosion. À 20 km derrière eux, perché sur une tour métallique de 105 mètres de haut, la première bombe atomique française allait exploser.
Il est H-2, nous sommes à 2 minutes de l'explosion. Les hommes viennent de prendre les positions de sécurité, assis au sol, le dos vers la direction où explosera la bombe. Ils mettent la tête entre les genoux et se protègent les yeux avec les coudes repliés. Vers l'est, le jour commence à se lever. Plus qu'une minute et demie avant l'explosion, nous prenons tous les positions de sécurité. Moi-même, je cache ma figure dans mon bras. H-1, la dernière fusée vient de partir, une fusée rouge. Plus que 50 secondes. Plus que 45 secondes.
Jean Guinel, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 46 ans, le 13 février 1960, quelques secondes avant l'explosion de la première bombe atomique française dans le Sahara. Un reportage étonnant dont on entendra la suite tout à l'heure et qui allait être diffusé le jour même à la radio. Et cela malgré le secret qui entourait la fabrication de cette bombe. Un secret dont vous parlez dans un livre collectif, Histoire secrète de la Ve République, où vous rappelez que bien avant 1960 et même bien avant Hiroshima, eh bien des scientifiques français avaient déjà travaillé à la fabrication d'une bombe. Vous dites même qu'ils ont été les pionniers dans ce domaine.
Oui, absolument. Et lorsque Albert Einstein fera sa lettre, célèbre lettre au président des États-Unis pour lui dire qu'une arme nouvelle est possible, il fera référence très précisément aux travaux des savants français du Collège de France.
Alors ces savants français sont autour, étaient réunis avant la guerre autour de Frédéric Joliot-Curie, il y avait Francis Perrin, vous les citez, Hans Alban, Lev Kovarsky, Bertrand Goldschmidt aussi. Alors ils ont été évidemment dispersés pendant la guerre, hein. Je crois que c'est Joliot qui leur a dit d'aller les uns en Angleterre, les autres aux États-Unis.
Oui, ils sont allés aussi au Canada et là ils ont pu travailler de manière un peu adjacente au projet Manhattan, qui était celui de la bombe atomique américaine. Et puis, lorsque la libération va arriver, évidemment, ils seront prêts et disponibles pour doter la France de cette arme.
Alors, la libération, c'est l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1945. Et il assiste, il entend parler, tout le monde entend parler comme tout le monde, de cette bombe d'Hiroshima. Et c'est juste après, quelques jours après je crois, que de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique. C'est ça qui a joué un rôle ensuite, par la suite.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il fallait, les efforts s'étaient poursuivis pendant la guerre de manière un peu dispersée, il fallait les rassembler. Et puis il fallait démarrer précisément le travail extrêmement intense au plan scientifique et au plan industriel pour pouvoir doter la France de cette arme. Et le général de Gaulle va s'appuyer sur un homme qu'on voit pendant des années, pendant des décennies, et dont on voit le travail dans de très nombreux domaines au début de la Ve République également, et qui est Pierre Guillaumat, et qui va jouer un rôle absolument énorme. Et tout ça va pouvoir aboutir bien des années plus tard à l'explosion dont nous venons d'entendre le reportage.
Alors cela dit, De Gaulle va quitter le pouvoir, il part en 1945, il y revient en 1958, et justement avec la même volonté de fabriquer une bombe française qu'il justifie quelques mois avant le premier essai français dans le Sahara.
Dans ce qui concerne la défense dans son ensemble, je tiens à vous dire qu'il faut que cette défense de la France soit française. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il y a une conséquence, c'est qu'évidemment, il faut que nous sachions nous pourvoir de ce qu'on est convenu d'appeler une force de frappe, susceptible d'agir pour notre compte, à tout moment et n'importe où. Il va de soi qu'à la base de cette force doit être l'armement atomique.
Alors c'était le général de Gaulle en 1959, la bombe n'a pas explosé, mais alors, comme il la voulait, on le sait, et dès 1945, on a toujours associé la bombe, la force de dissuasion, qu'il appelait, on l'a entendu à l'époque, la force de frappe, au général de Gaulle. Or dans votre livre, vous le rappelez, Jean Guinel, avant lui, des responsables, les premiers ministres, on disait à l'époque président du Conseil de la 4e République, avaient déjà prévu de doter la France d'une arme nucléaire.
Ah, mais l'effort est constant. L'effort ne va jamais cesser dans les 15 ans qui séparent la libération de l'explosion de Reagan. L'effort est constant. La 4e République l'intensifie, donne des moyens, énormément d'argent. Tous les plus beaux esprits de la République vont se consacrer à ce travail. Et le point de départ, c'est-à-dire qu'il a fallu faire des travaux préparatoires, et puis un jour, il a fallu décider de lancer la fabrication de la bombe. Et ça, cette décision est prise il y a exactement 50 ans par Guy Mollet, qui, après l'échec de Suez, qui a contraint la France à céder au chantage atomique soviétique. Et donc, c'est le point de départ où, là, à nouveau, Pierre Guillaumat se voit chargé de la fabrication de la bombe. Et Pierre Guillaumat sera le Premier ministre des armées de Gaulle en 58.
Alors, quand vous dites tous les beaux esprits, Jean Guinel, tout ce qui compte, vous parlez du politique, vous donnez le sentiment, en le disant, parce qu'en vous lisant, c'est le contraire, que tout le monde est au courant. Pas du tout. Si on n'a pas d'archives de Guy Mollet disant « je veux une bombe » ou après lui, Félix Gaillard, c'est qu'à l'époque, tout cela se fait à l'insu du Parlement, bien sûr, pas question d'évoquer le problème à l'Assemblée nationale, à l'insu des ministres. Il y en a très peu qui sont au courant, et le président de la République, n'en parlons pas. Donc tout ça se fait dans le plus grand secret pendant une dizaine d'années.
Et vous pourriez ajouter à l'insu des armées, parce que c'est la filière scientifique qui va travailler, ce sont les physiciens qui vont travailler sur, et pas du tout les militaires. Les militaires ne sont pratiquement pas associés avant un moment très tardif à la bombe atomique. C'est-à-dire que c'est un effort intense, mais il est plus que secret. C'est le cœur absolu du secret de la République.
Vous donnez, à ce moment-là, on donne le sentiment que le CEA travaille pour l'énergie nucléaire civile. On en a parlé il y a peu de temps dans cette émission. Et alors, on oublie que si on encourage la fabrication de piles atomiques, comme on disait, ou de centrales nucléaires, c'est pour qu'elles fabriquent le plutonium, qui est la matière première des bombes nucléaires. Vous parlez aussi d'un projet très étonnant, surtout quand il s'agit d'une bombe atomique, qui est par définition l'arme d'un pays, et même d'un homme, en tout cas du chef de l'État, c'est qu'on pensait à l'époque, que ce soit Guy Mollet, que ce soit après lui Félix Gaillard, à une bombe européenne, collective en quelque sorte.
Oui. Et Jacques Chaban-Delmas, qui était ministre de la 4e, et effectivement, la France, l'Italie et l'Allemagne ont travaillé sur une bombe européenne. Alors même aujourd'hui, on a du mal à concevoir ça. C'est-à-dire que quelques années après la défaite allemande et italienne, la France va s'associer avec ces pays pour mettre sur pied une bombe européenne. Alors Évidemment, lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 58, c'est la première chose, c'est quasiment sa première décision secrète encore, bien sûr, mais va consister à interrompre ce projet qui va donc disparaître aussitôt.
Alors, il arrive au pouvoir en 58, juste après le départ de Félix Gaillard de l'hôtel Matignon, il était Premier ministre. C'est lui, Félix Gaillard, qui en avril a décidé de la date, du lieu de l'explosion de la première bombe atomique en 1960 dans le Sahara, une opération joliment appelée Gerboise bleue et dont de Gaulle, bien entendu, accélère les préparatifs, et elle aura lieu, comme prévu, le 13 février 1960 à Reagan à 7h du matin, devant des journalistes installés à 20 km du point zéro, où doit avoir lieu à 7h très précisément une explosion 4 fois plus puissante que celle d'Hiroshima.
Plus que 50 secondes, plus que 45 secondes,
pas
la côté de ça, hein.
Ah, mais voulez-vous que je vous dise, je trouve ça très très bien. On voit un magnifique champignon.
Oh, c'est formidable.
Je regrette qu'un appareil de photo.
Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques.
Et dans le jour qui se lève, c'est absolument impressionnant. En une minute, le jour s'est presque fait et l'explosion y a contribué également, puisqu'actuellement, la lueur n'a pas fini au sol.
Le champignon se développe maintenant.
On dirait de la neige au sommet, hein.
Toujours tout mauve, 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 et sauf le sommet blanchâtre, comme une neige qui viendrait de tomber.
L'impression est merveilleuse.
Oui, je crois que toutes les images poétiques sont valables maintenant. Tout à l'heure, malgré nos bras repliés, malgré les lunettes de protection sur les yeux, nous avons aperçu un éclair extraordinaire.
J'ai eu l'impression que la lumière traversait à la fois mon bras, mes paupières, mes lunettes. Je pense que celui qui l'aurait regardé en face et sans lunettes était aveugle pour un moment.
Commandant, quelle est votre impression ?
Je suis convaincu que je viens d'assister à un grand événement de l'histoire de France. La première bombe française a éclaté à l'heure exacte qui avait été annoncée la veille. Ce magnifique résultat est l'aboutissement de la science et de la haute technique de tous les Français qui ont fabriqué l'engin. Tous ici éprouvent un sentiment de fierté et de ferveur patriotique.
Ici Paris, Radiodiffusion Télévision Française, ensemble du réseau. Vous venez d'entendre le reportage réalisé au moment même de l'explosion de la bombe atomique française, ce matin dans la région de Reagan.
Impressionnant, hein, ce reportage, Jean Guinel. Je vous ai vu surpris par les commentaires, pas seulement le reportage qui est fait en direct. Enfin, il a été diffusé plus tard. La censure, entre-temps, devait intervenir. Tous les Français ont pu l'entendre. Mais alors, entendre les mots merveilleux, poétiques, ça paraît surprenant aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus d'explosion en France, mais aujourd'hui, où l'on cache plutôt ces expériences nucléaires.
Oui, on est dans la veine de ce qu'écrivait Le Monde le lendemain de l'explosion d'Hiroshima, en disant que c'était une grande victoire, un grand progrès scientifique. C'est-à-dire que la dimension scientifique est mise en avant, la dimension visuelle, et la rupture stratégique que ça va entraîner n'est pas du tout perçue. C'est alors que, bien sûr, dans l'esprit des dirigeants, elle est là.
Oui, mais ça fait même pas. Enfin, ça impressionne, mais ça fait pas peur. On a l'impression.
Non, c'est... non. Et puis ces gens qui ont assisté à l'explosion à 20 km. Ont dû en subir des conséquences personnelles,
oui,
ensuite.
On l'évoquera, parce qu'il y a ça, il y a Bureroi, effectivement. Alors, ça se passe quand ? En 1960, la guerre d'Algérie n'est pas terminée, et alors vous le rappelez dans ce livre, et c'est une chose auquel les gens n'ont pas bien compris, en tout cas qu'ils ne savaient pas vraiment, c'est que les négociations qui vont avoir lieu peu de temps après avec le FLN, eh bien, dans ces négociations, le Sahara, où se déroulaient les expériences, a joué un rôle énorme, parce qu'il y avait la bombe. Ça a compté énormément dans les négociations à la fin de la guerre d'Algérie.
Bien sûr, il y a deux éléments qui vont compter dans la négociation avec le FLN sur la mise à disposition du Sahara par la France, pour la France. Il y a le nucléaire et puis il y a naturellement le pétrole. Tout ça est à mettre en perspective, parce que la France a absolument besoin d'un terrain d'expérimentation pour faire ses expériences atmosphériques. Et il faut pour ça un lieu qui ne puisse pas dans lequel les explosions n'auront pas de conséquences sur les populations. Donc rien n'est mieux qu'un désert pour ça. Et effectivement, dans dans les difficultés des négociations, c'est que la France va vouloir conserver au moins une part de sa souveraineté sur le désert.
Et elle va garder donc ses centres d'expérimentation pendant quelques années jusqu'à l'explosion d'une nouvelle génération de bombes dans le Pacifique, des bombes H. Vous rappelez aussi une chose totalement inconnue, c'est que la bombe H française, la bombe à fusion infiniment plus puissante que les bombes A, les bombes atomiques, eh bien, on les doit aux Anglais.
Eh oui, c'est un élément qui n'est pas du tout connu et qui fait partie des choses que nous révélons dans cet ouvrage. Mais en 1968, De Gaulle veut absolument disposer de la bombe H, de la bombe à hydrogène, d'autant plus qu'il sait que les Chinois vont avoir bientôt leur bombe atomique. Et il ne supporte pas l'idée que la France ne soit pas au sommet de la technologie nucléaire. Or, la bombe H, c'est un peu technique, on y fait allusion dans le livre, mais c'est pas le sujet technique. Mais la bombe H, il faut avoir l'idée de la manière de la faire. Et ça, les Français ne l'ont pas. C'est-à-dire, ils sont tout prêts, ils tournent autour. Il y a même un des savants qui va l'avoir, l'idée, mais ils ne savent pas que c'est la bonne. Et ce sont les Britanniques qui vont. C'est pas du tout de l'espionnage. C'est pas acquis par des moyens illégaux. Ce sont les Britanniques qui, à Londres. En la personne de l'attaché militaire à l'ambassade de France, vont leur donner le petit truc, mais parce qu'ils veulent discuter avec les Français de l'entrée dans l'Europe.
Ah d'accord, que De Gaulle empêchera quand même.
Et que De Gaulle empêchera quand même, oui. Après l'explosion de la bombe H offerte par les Anglais.
Alors ces bombes exploseront dans un nouveau centre d'expérimentation dans le Pacifique, où ce centre s'installe, et où se rend le général De Gaulle en 1966.
De Mondouroy qu'a eu lieu cette explosion. Imaginez une bande de corail très étroite, quelques dizaines de mètres, mais longue d'une soixantaine de kilomètres. Une sorte d'ovale qui entoure un lagon. Au moment même de l'explosion, l'atoll était bien entendu désert.
Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne. Non pas une puissance destinée à attaquer ou à dominer personne, au contraire. Une force qui, dans le monde très dangereux où nous nous trouvons, doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer jamais, c'est-à-dire de nous donner la plus grande chance de paix qui soit possible.
C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Qu'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert, de gravats de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve, réveillez-moi. Réveillez-moi. Réveillez-moi.
Il y avait une ville, Claude Nougaro, en 1964. C'est une chanson qui dit bien les angoisses, bien entendu, qu'on éprouve devant le nucléaire, devant le nucléaire militaire, devant ces bombes. Ce qui prouve aussi que, à l'époque, on a mal compris en France l'opinion publique qui commence à se dresser contre ces expériences, comprend mal la politique de dissuasion dont parlait De Gaulle, qu'on a entendu juste avant.
Mais elle est difficile à comprendre puisque c'est une arme absolue qui a pour vocation de n'être jamais utilisée. Donc l'utilisation de l'arme atomique consacrerait son échec. Et donc il faut faire un petit effort conceptuel pour comprendre, mais tout ça, ça s'inscrit dans l'histoire personnelle de Charles de Gaulle. La France, quand il arrive au pouvoir, a été envahie trois fois en moins d'un siècle, 1870, 1914, 1939. Il ne veut plus que ça recommence. C'est fini. Pour lui, il veut une arme qui interdise à tout jamais, à quiconque, d'envahir le territoire français.
Montrer sa force ou ne pas avoir à s'en servir.
Voilà. Et d'être, même en étant beaucoup moins puissant que des adversaires disposant de davantage de bombes et plus fortes, être capable de leur infliger des dommages suffisamment intenses et suffisamment insupportables pour qu'on ne prenne pas le risque d'attaquer la France. Voilà, ça, la dissuasion, ça tient en ça. Et dans son discours de 1959 qu'on entendait tout à l'heure, c'est extrêmement clair, c'est ça qu'il dit. En très peu de mots, parce que lui, il a compris.
Y compris celui de 66 à Mururoa.
Bien sûr, mais lui, on a beaucoup glosé sur les stratèges français, mais le premier stratège de la bombe atomique, c'est Charles de Gaulle.
Alors la preuve, il n'y a pas eu de guerre, en tout cas, de menace sur la France, proprement dite. Bon, c'est peut-être une des raisons. On verra que d'ailleurs, ce n'est pas forcément aujourd'hui la meilleure des stratégies, ou en tout cas la seule. Il y a une chose qui m'a surprise aussi en vous lisant, Jean Guinel, c'est que les militaires, il y a eu beaucoup de gens qui sont opposés, les militaires aussi.
Mais bien sûr, parce que les militaires, lorsque se termine la guerre d'Algérie et que la bombe arrive dans l'arsenal français, ils font la guerre depuis 1945, ça n'a jamais cessé. Depuis l'avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu l'Indochine et puis l'Algérie aussitôt. Et pour des militaires qui en plus ont à faire face au pacte de Varsovie, eh bien, il faut des hommes, il faut du matériel, il faut être capable d'occuper, de conquérir un terrain et puis ensuite de l'occuper. Et ils ont du mal
à la stratégie.
Ils ont beaucoup de mal à comprendre une arme qui a pour vocation de ne pas servir et d'interdire une opération contre la France.
Peut-être parce que le nucléaire aussi va mobiliser beaucoup de crédits qui seront retirés aux forces classiques. Alors, autre opposition politique, des politiques qui mettront du temps pour les politiques qui s'y opposent à se rallier à cette stratégie, comme François Mitterrand le fera quand il sera président de la République, après avoir été un adversaire farouche de la bombe 20 ans plus tôt. Écoutez ces deux discours de François Mitterrand, le premier en 1963, le second en 1983.
Certons la paix, monsieur le Premier ministre, lorsqu'on refuse de signer l'accord sur la cessation des expériences nucléaires. Certons la paix. Certons la paix. Lorsque, en réalité, on refuse de participer au débat sur le désarmement, certons la paix lorsqu'on prétend abriter la sécurité de la France derrière cette ligne Maginot de la force de frappe sous la protection d'une bombe désormais disséminée partout où chacun en réclamera l'usage.
Je vais vous dire tout de suite quelque chose de très clair. La pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion en France, c'est le chef de l'État, c'est moi. Car tout dépend de sa détermination. Le reste, ce sont des matériaux inertes. Enfin, jusqu'à la décision. Jusqu'à la décision qui doit consister précisément à faire que l'on ne s'en serve pas.
Et c'était François Mitterrand, 20 ans après avoir qualifié la bombe de ligne Maginot. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Vous dites que c'est Charles Hernu, son entourage.
Non? Alors, c'est Charles Hernu, mais surtout ce qu'il a fait changer d'avis en 1978, c'est qu'il a compris qu'il ne serait pas président s'il n'intégrait pas la dissuasion. Et la différence des deux discours à 20 ans d'intervalle, c'est extrêmement clair. Le président français est un monarque républicain, son sceptre, c'est la bombe atomique.
Alors, autre chose que vous nous rappelez, on a entendu le mot dissuasion, le mot dissémination aussi, c'est le fait que la France a été un des plus gros pourvoyeurs d'armement nucléaire ou de potentiel d'armement nucléaire dans le monde. Israël, en 1956, mais aussi plus tard, l'Irak, l'Iran, elle a proliféré en partie grâce à la France.
Alors, il y a un pays qui doit la bombe à la France, c'est Israël. C'est la bombe israélienne a été offerte, a été donné par la France. Ça, c'est extrêmement clair.
Parce que la France a livré un...